Bon,
Bon.
de toute façon, l'essentiel avait été assuré.
Oui, c'est ça. Non, mais clairement, depuis la fin de saison, depuis le maintien, le club est en roue libre. Voilà, c'est enfin l'équipe est en roue libre. L'objectif, c'était le maintien. C'est fait. Bah, plus maintenant. Voilà. Donc défaite contre Brive qui cherchait son maintien. Et voilà. Puis beaucoup de blessés, on en a parlé, beaucoup d'absents. Logique. Défaite logique.
Et puis en National 3 féminine, l'UVBT qui se déplaçait à Montaigu. Je vous fais pas la chanson.
Elle est bien, elle est bien.
Non, mais je vous fais pas la chanson.
Eh ben,
Elle est bien, il
voilà.
en perd sa souris, Guillaume.
Il en perd sa souris, Guillaume.
Il en perd sa souris. Défaite de l'UVBT, 3-7 à 0. Pourquoi 2?
3-7 à 2.
Ah, 3-7 à 2, pardon. Oui,
Attention,
pardon,
ça
oui,
change
3-7.
beaucoup de choses.
Oui, pardon.
Ça change beaucoup de
pardon,
choses. C'est
oui.
un point
Ah oui,
pour,
c'est un point.
Pour l'UVBT. Bon, défaite,
c'est une coquille sur ma
c'est
feuille,
ça,
pardon.
exact. Défaite, bon, c'est difficile de perdre contre une équipe derrière soi. Mais bon, au vu du scénario du match, c'était serré. Le point est important et ça les met dans une position confortable pour surtout la réception du dernier camp qui n'a, crois, gagné que 3 matchs depuis le début de saison. Donc ça les met dans une position confortable pour le maintien. Il suffit juste de gagner un point, donc prendre 2-7. Et l'UVBT est maintenu en National 3. L'UVBT, qui on le rappelle, est une entente entre différents clubs, c'est-à-dire Saint-Cyr, Saint-Avertin et Jouer, justement. C'est ça? Je me trompe? Okay.
Non.
Jouer, qui a gagné justement en pré-RF, en régional féminine. Donc, à voir ce qui va se passer, mais je ne sais pas s'ils monteront ou pas. Mais on signale aussi le titre pour Jouer
Oui,
en
oui,
régional.
Oui, il a monté donc en National 3.
À voir, puisque c'est l'entente avec
Oui.
le VBT, ce qui va se passer, quoi.
On va voir ce qui va se passer. En National 3 masculine, le TVB 3, troisième équipe du TVB qui se déplaçait à Boulogne-Billancourt, la CBB, donc défaite 3-7 à 0.
Ouais. Je dirais que c'était plutôt un beau match pour le TVB. Parce que c'était le leader invaincu, mais ça prend 18, 16. C'était pas une raclée. Donc honnêtement. Déjà pour la troisième équipe du TVB, c'est déjà une très belle saison en National 3. Ça cherche pas à aller encore plus haut. Ouais, c'est une défaite lourde, mais finalement pas si mauvaise, on va dire.
Bah voilà ce qu'on pouvait dire sur cette page volée. Merci Kevin. On va passer
Plaisir.
au rugby. Bertrand, j'espère que tu es prêt, Fabien aussi. Le rugby, on change le ballon est ovale cette fois-ci, il est plus rond. Il y avait les finales régionales à La Châtre, c'était dans le 36. C'est toujours dans le 36, ça n'a pas bougé. Voilà. Il y avait plusieurs équipes du 37 engagées, notamment Chinon, qui affrontait justement l'équipe de La Châtre. Défaite 13 à 11. Ils sont pas passés loin
Non,
du bouclier.
justement, je pense que Pichonnière, l'entraîneur, doit être déçu, parce que comme il me disait dans la semaine, j'ai jamais ramené un bouclier en tant que joueur, je voulais le faire en tant qu'entraîneur. Malheureusement, ça n'a pas tenu à grand-chose. Il faut quand même signaler que La Châtre organisait ses
Oui.
finales régionales, ils jouaient chez eux, ils avaient connu un début de championnat difficile, cette qualification, ils sont passés par les demi-finales et tout pour l'arracher et tout. Et une fois qu'ils étaient chez eux, c'était compliqué, même si Chinon les a terriblement menacés, ils perdent que 2 points, ils peuvent regretter un peu que leur buteur ait été un peu en manque de réussite, c'est dommage.
Et puis le scénario à la fin est assez cruel, hein.
Ouais, c'est sûr. Et puis c'est surtout que, bon, bah, comme quand on arrive en fin de saison, tous les clubs lorgnent un peu vers le championnat de France. Et derrière, si Chinon avait été champion régional, il jouait les 32e de finale. Donc ça mettait un peu de piment à l'aventure et tout. C'est dommage pour Chinon, mais bon. La Châtre était à domicile, je le répète, sur le
dans
stade
son fief.
du Pré de la Fille.
C'est les joies.
Ça ne s'invente pas.
Non, c'est un sacré nom. Du coup, moi, j'avais une question. Est-ce que ça permet à Chinon de monter ou...
Non, parce qu'il y a déjà un qualifié, en fait. J'avais cette question
okay,
aussi.
Ouais.
Et on m'a précisé au niveau du règlement, en fait, il y a un qualifié directement, en fait. C'est Nogent, hein, Nogent
ouais,
le retrouve.
C'est l'entente,
qui est...
Nogent le retrouve, Alduin
ouais,
et tout,
c'est ça.
Qui avait assuré
la montée, donc en Fédéral 3.
Et également le championnat de France aussi pour les phases finales.
Ouais,
mais bon,
okay.
Aussi bien Chinon que Chouet-les-Tours, malheureusement, deux clubs qui
ouais.
évoluaient encore il y a 2 ans en Fédéral 3, ben, restent hackés. C'est dommage.
Bah, l'objectif pour la saison prochaine, j'imagine que c'est refaire le même parcours et puis cette fois-ci, bah, peut-être essayer de monter en Fédéral 3.
Ça devient de plus en plus compliqué, d'autant que je dévoile pas un secret, mais Chouet-les-Tours a des gros problèmes financiers.
Ah ouais, bah, décidément, quand ça touche pas
le foot,
c'est
le
rugby. Ils ont des problèmes financiers, mais le président a démissionné il y a un mois.
Ah oui, d'accord.
Ils ont les 50 ans du club, les malheureux, fin juin.
Ouais, en
et
plus.
Pour le moment, il n'y a pas de président. Alors, il va y avoir une assemblée générale 8 jours avant. Ils espèrent simplement qu'il y a quelqu'un qui va vouloir se lancer dans l'aventure. Et c'est compliqué parce que le rugby masculin...
Alors que l'équipe féminine, par contre, est en élite 2 féminine.
Attention, parce que l'élite féminine, tu me coupes l'herbe sous le pied.
Oui, pardon.
Le problème, c'est que le championnat n'est pas terminé. C'est difficile d'y voir clair parce que toutes les équipes n'ont pas le même nombre de points.
Oui.
Jouer, à un moment, on a cru qu'ils étaient bien partis pour le maintien. Bon, j'espère ne pas leur porter la poisse, mais dimanche prochain, il y a un match qui... Bon, il y a quelques temps, mais là, j'ai eu personne de jouer aujourd'hui, mais normalement, c'est la venue de Dax,
oui,
au stade Pierre Albaladejo qui devait décider.
C'est
Or,
ça.
J'ai regardé ce week-end, il y a l'équipe qui était en lutte avec eux.
Les Coyotes. Je crois bien que c'est les
Dax
Coyotes.
Dax a gagné, ouais, justement contre les Coyotes. A gagné sur le terrain des Coyotes 94, l'équipe du Val-de-Marne. Ils ont gagné 7-7. Donc Dax s'est rapproché, ils sont à 4 points de jouer.
Bah c'est...
Alors, la victoire, c'est 4 points, je ne sais pas du tout.
Je pense que ça ne change pas, parce que j'avais regardé, j'avais fait un peu les scénarios sur mon collecté, c'était vraiment, si jouer gagner, ça se maintenait, si jouer perdait, c'était possible relégation. Donc, contre Dax.
Mais justement...
C'est ce qu'il disait, hein, Bertrand.
Ah oui, bah, pardon, Bertrand.
Il y a 4 points d'écart, et si par malheur, jouer venait à perdre...
Ouais, bah là, c'est ça.
Je pense que faut
battre Dax.
Et là, c'est vrai que, comme tu le disais fort justement, ils sont quand même en élite 2, ils ont été champions de France il y a 2 ans. Mm. Croisons les doigts et espérons que jouer va pouvoir se ressaisir, et tout au moins les filles vont pouvoir sauver la saison, parce que ce serait quand même un coup dur pour le,
ouais,
rugby, je compte.
Ouais, c'est sûr.
Et surtout une année des 50 ans.
Oui, voilà, c'est ça, c'est surtout
ça. Ça gâcherait déjà un peu la fête.
C'est surtout ça, voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ces finales.
Alors, par contre, au niveau final, justement...
Ah, vas-y, continue.
J'avais noté quand même, il y a quand même un club de Régional 3, c'est Luynes,
ouais,
qui a gagné la finale contre Déol, 23-22, qui ramène le titre. C'est de mémoire, je pense que c'est le 4e ou 5e bouclier
de cette
petite équipe, oui, qui a été créée quand même dans les années 1980, Luynes. Et là, pour l'anecdote, on dira qu'ils ont mené 23-7 à la mi-temps. Par contre, en deuxième mi-temps, ils ont eu des gros problèmes.
Ouais.
Ils ont pris 15 points et ils sont revenus, les adversaires, à 1 point. Ils ont réussi à préserver ce point et c'est une belle aventure pour les deux vice-présidents, Armel Gorgora et John Renoux. Et je pense que du côté de Luynes, hier soir, ils ont dû faire une belle troisième mi-temps.
Mais ça, c'est
tradition rugby, exact. Vive le troisième mi-temps.
Faut pas qu'ils fassent de trop, parce qu'ils ont la chance de jouer les 32e de finale.
Ah, voilà, c'est ce que je
regardais, parce que, ouais, la fédération devait leur dire aujourd'hui, ils jouent dimanche prochain. Mais avec la fédération, faut pas être pressé. À l'US Tour, on l'a rencontré, des fois, c'est le genre de problème. Ils vous préviennent, et puis pour organiser des déplacements, quand vous avez plusieurs équipes qui se qualifient, c'est, ouais, quand même pas très facile. Mmh. Alors à la décharge quand même de la Fédé, ils essaient quand même de faire attention pour que les clubs soient pas envoyés. Comme
oui, ils font pas des centaines de milliers, de milliers de kilomètres, mais des centaines de kilomètres.
Ouais, mais des fois, ils font des oppositions, ils prennent plus, mais ils privilégient la situation géographique, ouais, et il y a des fois... Ça a grincé parce qu'il y a des équipes, je vois notamment dans l'Indre l'autre jour, Issoudun, qui avait fait un des meilleurs quatrièmes et qui s'est retrouvé, au lieu de jouer le match de barrage chez eux, ils l'ont joué à l'extérieur. Et la saison a été terminée. Donc c'est très très dur quand on arrive en phase finale. Fabien, je crois qu'on a tous envie d'aller le plus loin possible. Hein, parce que c'est vrai, le parfum des phases finales, ça transcende tout le monde, les joueurs,
sûr,
les dirigeants et tout.
C'est une épopée, on a envie de faire une belle épopée, c'est sûr.
Ah ouais, surtout quand il y a au bout des choses intéressantes à aller chercher.
Bon, en tout cas, on salue le club de Luynes, donc bravo, félicitations bien à toute l'équipe de Luynes pour ce titre de champion. Et puis on espère un beau parcours.
En plus, j'oubliais, ils montent, parce que d'une division à l'autre, les règlements ne sont pas les mêmes.
Ah oui.
Là, comme il y a deux
pour rajouter déjà la difficulté,
voilà, ils montent en régional 2.
Voilà. Et puis selon l'année, s'il y a les pairs ou impairs, on ne sait pas.
Ouais.
Bon, bah en tout cas, bravo à cette équipe de Luynes, donc voilà, pour ce nouveau bouclier, le 5e, hein, tu m'avais dit, c'est ça?
Je pense, parce qu'il y en a eu un il y a quelques années, en Régional 4, à l'époque où il y avait une Régional 4, et dans les années 2000-2006, ils ont dû gagner 2-3 boucliers.
Ah oui, donc...
Régionaux, pardon.
Ouais.
Bon, ben voilà ce qu'on pouvait dire pour ces finales régionales. On en profite avec notre invité Fabien Pinto de Silva, le capitaine de l'US Tour, donc pour revenir bien sur cette saison de l'US Tour, mais qui n'est pas terminée, puisqu'il y aura donc ces barrages qui s'annoncent. Ce sera ce week-end, ce dimanche. Alors ce sera à 16h30. Hein. L'horaire est exceptionnellement... Tu vas nous dire pourquoi, Bertrand, tu me l'as dit en off, mais tu vas nous l'expliquer.
Déjà, je tiens à saluer et dire que l'US Tour, la bonne santé de l'US Tour, parce qu'on a quand même réussi à hisser en phase finale, 4 équipes. On va avoir l'équipe première, qui effectivement jouera dimanche à 16h30 contre Anthony Metro. On a la réserve également qui s'est qualifiée, qui va jouer, elle, là c'est pas du tout, c'est une question de classement, également, c'est bizarre, mais il joue contre également la réserve d'Anthony. Et les deux clubs se sont mis d'accord. Le match, au lieu d'avoir lieu en terrain neutre, aura lieu sur le terrain de l'US Tour. Et il aura lieu à 14h. Pourquoi ces deux matchs aux horaires inhabituels? Tout simplement parce qu'il peut y avoir des prolongations. Donc, en cas d'égalité, prolongation. Donc, c'est la raison pour laquelle, mais c'est pas plus mal, parce que comme ça, si il fait beau et tout, ça va permettre de faire une belle journée à Tonlé.
Voilà. Puis en plus, derrière, ça se termine vers 18h30, 19h, apéro. Parfait. Voilà.
On verra.
Ouais. Je partirai pas.
On verra.
On avait donc 4 équipes et on a également les deux jeunes, les deux équipes de jeunes. On a les U16 et les U18 qui se sont qualifiés pour les 16e de finale. Et ça, c'est énorme parce que pour les nos juniors, c'est la première fois sous l'appellation US Tour que nos juniors se qualifient pour les phases finales du championnat de France. Il y avait eu par le passé, à l'époque où il y avait l'équipe Tour N+, il y avait une équipe qui avait été en championnat de France. Et donc là, il faut le saluer, le travail des éducateurs et tout. On a également les U16. Alors si mes informations sont bonnes, parce qu'on a été avisé cet après-midi, que je ne dise pas de bêtises, les U16 joueront, donc c'est le rassemblement Tour Métropole, ils joueront contre Ris-Orangis. Et quant au U18, ils affronteront Tours contre l'entente Anthony Massy. Là, c'est pas Anthony Metro comme la première, c'est Massy. Massy, c'est quand même un très bon club de jeu.
Ouais, c'est ce que je me disais. C'est ce que je me disais. Hein.
Mais j'ai discuté avec un des responsables cet après-midi, mais on a espoir parce que l'année dernière, Massy, on les avait étriés. Croisons les doigts.
Et bah, en tout cas, on dit généralement que la bonne santé d'un club passe aussi par sa formation.
Exactement.
Donc voilà, c'était l'occasion de saluer leur belle performance. On va revenir sur la saison de l'équipe première, si tu me le permets, Bertrand. Une saison globalement réussie, même si on peut avoir quand même quelques regrets, alors notamment passer par une infirmerie, souvent remplie. Ça aussi, ça a pesé un petit peu dans la balance dans cette fin de saison un peu plus délicate par rapport au début de saison qui était très très bien.
Bah, si je devais donner une mention sur le bulletin de la saison, je sais pas ce que tu en penses.
Oh bien.
Je dirais élève doué peut mieux faire.
D'accord.
Bon. Peut mieux faire. Pourquoi? T'en conviendras. Lors des matchs aller, on a un peu marché sur l'eau. Parce qu'on n'a connu qu'une seule défaite.
Ah, une année 2023 parfaite, bon, quoi, quasiment
puis,
parfaite.
Ah oui, oui. Et alors d'habitude, on a un creux à la reprise au mois de janvier. Là, les coachs et tout avaient fait le nécessaire pour qu'il n'y ait pas de creux. Bon, effectivement, on gagne à Trignac et on gagne, je ne sais plus où exactement, derrière.
Sur à la maison.
Oui, mais il y en a un autre.
Non, parce que le deuxième, c'est Mérignac. On fait Trignac, on gagne. Mérignac, on perd de... Je comprends peut-être.
Non, mais c'est après ça. Parce qu'il y a Trignac et, comme tu dis, l'avertissement sans frais, 36-34. Et alors après, ça a été le trou noir.
Quatre défaites consécutives.
Ça a été en février, consécutives. Et là...
Là, forcément, les autres en ont profité derrière.
C'est surtout l'avalanche de blessés qu'on a
fait. C'est pour ça que cette série s'explique aussi par cette infirmerie qui a souvent été bien remplie, malheureusement.
Oui, tout à fait. Mais bon, tout club connaît des moments difficiles. Une saison, c'est jamais un long fleuve tranquille.
Non, ça c'est sûr.
On est parti fort, on a eu un coup sur la tête, on a pris un coup sur la cafetière. On s'est un peu refait une santé, mais là, je vais te laisser la parole. Parce que... On en parlait la semaine dernière. Je pense qu'il a vu, Fabien, que l'équipe, les gars s'étaient ressoudés. Ils ont pris. Et puis, on en revient toujours au même truc. Il y a les phases finales et tout. Il y a la ligne d'arrivée et tout. Et je pense que Tour veut
Il y a un regain de motivation en tout cas.
Ouais, je pense que c'est plus le fait qu'on s'axe sur ouais, on va profiter de cette saison à fond, sans penser à l'année prochaine en fait. Parce que c'est vrai que cette pression de ah ouais le club veut monter, bah, ça te met une pression supplémentaire. Ouais. Et toi tu te dis qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine ? Alors en fait, il y a à peine question qui te pose dans la tête. Donc là, tu te poses, tu dis ça c'est à côté, là on va profiter. Là la saison elle est finie. Et là, c'est que du plus en fait. Donc on va faire match après match, et après on verra où est-ce qu'on ira. Mais elle est juste profiter, parce que ce groupe-là, cette saison, il a été extraordinaire. Donc du coup, ouais, profiter jusqu'à la fin. Quoi.
Voilà, donc les barrages, donc ce sera contre Anthony. Alors on a dit, hein, donc ça on l'a dit avant l'émission, mais normalement ça devait être contre Orsay. C'est barrage, puisque avant d'accéder au 16e de finale, ça devait être contre Orsay, mais
non,
Orsay...
parce que Orsay, le problème, c'est une erreur du Midi Olympique, parce que Orsay a été... écarté de la course aux qualifications pour des problèmes financiers et tout.
Oui, c'est ça.
En fait, Orsay n'est pas qualifié, alors qu'ils ont terminé dans les...
Oui, cinquième, je crois. Ils ont terminé cinquième.
Et donc, ils ont qualifié le septième de
poule. Le septième,
qui est... Et Ris-Orangis, peu importe, Ris-Orangis ou Anthony, je ne sais plus lequel.
Anthony, je crois. Ouais.
Anthony, voilà. Anthony, oui.
Anthony, parce que Ris-Orangis,
c'est... On joue Anthony, hein, c'est une certitude.
Et Anthony, alors, c'est une équipe qui j'ai regardé les dernières saisons, a plutôt l'habitude de jouer voilà, le milieu de tableau, le maintien, etc. Ils n'ont plus connu de phase finale depuis plusieurs saisons déjà. Attention quand même, il faut se méfier toujours de cette équipe d'Anthony. Est-ce que est-ce que vous connaissez un petit peu cette équipe d'Anthony?
Ouais, j'ai regardé 11 victoires, 11 défaites. Ils ont vraiment le... Ouais. Alors, il y en a un qui la connaît mieux que tout le monde et qui connaît bien le coin, c'est l'entraîneur adjoint Alain Jamin. Il a été quand même 7 ans Anthony. Donc je pense que...
Ah oui, donc ce sera un petit peu des retrouvailles quand même.
Bah, je pense qu'il a quand même encore des amis et des espions là-bas.
Ouais, je pense aussi. Après, Anthony, non, c'est, nous, on a pu récupérer quelques vidéos. C'est devant, c'est pas trop ça, mais derrière, par contre, ça envoie du jeu.
Okay.
Voilà, t'as vraiment le disque, il a un très très bon pied. Franchement, il sert bien leur centre qui vient à chaque fois couper. Donc je pense que voilà, ça va passer par devant, sûr et certain. Je pense que les 20 premières minutes, si on les a devant, je pense que ça peut le faire. Mais attention quand même, parce que c'est un petit qui monte, attention.
Ouais. Oui, puis ils ont,
eux, ils ont rien à perdre.
Ils ont rien à perdre, c'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est une équipe qui, de toute façon, là, c'est que du bonus, donc ils vont mettre beaucoup d'intensité.
Je regardais, parce qu'ils ont quand même 11 défaites, mais je regardais, ils ont gagné 5 matchs à l'extérieur. Bon, ouais. Sûrement contre des équipes peut-être derrière, j'ai pas eu le temps de regarder tout, mais bon... Ils sont jamais à la rue à prendre des tôles. Hein. Ils collent au score et tout, donc il va falloir s'en méfier.
Oui, ils vont s'accrocher. Si.
Mais bon, je pense que si on a du public dimanche et tout, je pense que l'équipe va vouloir quand même arracher cette...
Il y a une belle ambiance qui se prépare.
Bah, on va essayer.
Bon, on espère que Tonnet va être rempli. En tout cas, on fait un appel évidemment aux fanas de rugby, ou pas. Simple amateur qui viennent à Tonnelay, donc ce sera dimanche donc à 16h30, mais il y aura la Fédérale B donc à 14h, donc n'hésitez pas à venir dès 14h justement pour voir les deux matchs donc de la Fédérale B et de la Fédérale 2, donc pourquoi, et puis après pourquoi pas gagner ce match et ensuite s'orienter vers les 16e de finale
contre Saint-Malo.
Un contre Saint-Malo qui
serait 8 jours plus tard, parce que de toute façon vu le classement et tout, en ayant perdu la première ou la deuxième place de la poule, on passait par les barrages, et surtout en faisant troisième, et en passant par les barrages, je veux dire, on se retrouve à jouer le match retour des 16e de finale comme les 8e de finale, logiquement à l'extérieur. Donc on jouerait Saint-Malo, ça c'est sûr, avec match retour à Saint-Malo. En revanche, après en 8e, qui serait le match de montée, il y a déjà un barrage ce week-end entre Gennevilliers et Rochefort. On peut imaginer peut-être que Gennevilliers puisse passer. Il y aurait un très très chaud bouillant Gennevilliers-Gujan. Alors, si c'est Gujan, on se rendra à Gujan pour le match retour. Si c'est Gennevilliers, on aurait la chance de jouer le match retour à Gennevilliers parce qu'on était mieux classé que 3e contre 4e de poule. Voilà. C'est des petits calculs d'apothicaire, mais je vous ai dit sur le parcours de l'UST.
Alors, par rapport à la saison dernière, donc vous aviez également accédé aux phases finales, vous étiez tombé en 16e contre Aramitz. Là, cette fois-ci, donc c'est les barrages avant d'accéder au 16e. Malheureusement, ça s'était soldé par une défaite la saison dernière, donc une élimination face à Aramitz. Qu'est-ce qu'il faudra ne pas refaire, j'ai envie de dire, ne pas commettre les mêmes erreurs pour cette fois-ci. Alors, si on gagne, si Tours gagne, ça sera au même étape, au même step, j'ai envie de dire. Mais voilà, qu'est-ce qu'il faudra ne pas commettre comme ce qui s'est passé face à Aramitz la saison dernière?
Je pense pour se prendre pour ce qu'on n'est pas. Parce que je pense que ça leur a fait tout drôle de connaître le rugby du Sud-Ouest.
Dans quelque chose.
Dans le Sud-Ouest, ils sont pas grands, ils sont pas gaillards, ils sont c'est des petits. Mais par contre, ils vont envoyer du jeu tout le temps.
Ça se voit.
Ça va être des chiens et ça va être ça comme ça. Donc là, il faut vraiment qu'on impose notre rugby en fait.
C'est un joueur formé à la section paloise, hein. C'est un Béarnais.
Ah oui, d'accord. Voilà. Ah oui, carrément.
C'est pour ça.
Il a quand même joué là-bas de très longues années. Il a été vice-champion de France Espoir une année. Ouais. Et avec dans l'équipe de la section paloise à l'époque, il y avait quand même notamment Astoy.
Antoine, Astoy, ouais, bien sûr.
On avait une très belle génération. Ouais.
Voilà. Ah, c'est très utile d'avoir ça dans son équipe. Hein.
Mais nous maintenant c'est très utile d'avoir Fabien chez nous, hein, je peux te dire.
Bah ça aide.
Qui en plus est international portugais.
En plus.
Ouais. Donc vous avez joué la Coupe du Monde
Non, du tout. Non, j'ai été appelé en mars.
Ok.
Là pour jouer à l'Irlande B.
Ok.
Donc c'était vraiment top. C'était vraiment excellent. Et du coup, on verra pour la suite.
J'imagine que tu es très content quand même de la progression que fait le Portugal dans le rugby.
Ah non, hein. Mais oui, franchement, non, c'est
là, la dernière Coupe du Monde, on l'a vu.
Ouais, ils ont fait de très beaux matchs.
Ouais, ils étaient pas loin même d'aller chercher une victoire. Sur une transformation, une pénalité, je ne sais plus. Ma mémoire me fait des pénalités qui est pas loin. Tu as peut-être vu le match à la télé.
Comme quoi, tu vois, il faut tout le temps se méfier. C'est pas parce que c'est une petite équipe qu'il ne faut pas aller loin.
Mais non, mais on l'a bien vu, mais bon, un petit peu quand même de déception, j'imagine, en voyant la finalité qui passe à côté. On se dit, on n'était pas loin, on a vu les joueurs qui étaient
ils sont effondrés,
voilà,
mais ça annonce du bon pour la suite, parce que tu vois, la prochaine Coupe du Monde elle passe à 26.
Oui,
ouais.
Donc là
ça ouvre la porte à de petites équipes, plus petites équipes,
ouais. Et je pense que t'as le Portugal, il y sera, je pense.
Ouais
je pense.
En tout cas, ces dernières années, on voit cette progression du Portugal, en
et puis même t'as plein d'équipes qui veulent rencontrer le Portugal. Mais tu vois, cet été, ils font une tournée en Afrique du Sud. Donc ils affrontent l'Afrique du Sud à Durban et la Namibie. Et après, en octobre, je crois qu'ils ont encore des test matchs. Mais notamment contre l'Écosse à Murrayfield. Tu vois, donc,
ça va être super, ça.
Ça fait des gros matchs.
Hein. Murrayfield, en plus, c'est super. C'est une belle ambiance. Il y aura l'hymne écossais. Voilà.
Non, mais comme quoi, c'est... En fait, il faut juste développer le sport, en fait. Tu le développes, tu le construis et...
En s'appuyant aussi sur les jeunes aussi, j'imagine, beaucoup de formations. Voilà, on s'appuie également du côté du Portugal sur la formation des jeunes, voilà, pour faire évoluer ce sport.
Ouais, mais t'as le rugby espagnol, enfin portugais qui commence à prendre un peu de l'ampleur. Donc du coup c'est top, ouais.
Bon, eh ben, tant mieux en tout cas. On souhaite plein de réussite en tout cas pour le Portugal en rugby, évidemment, dans toutes les sections. Et puis pour Tours, donc pour ces barrages donc face à Anthony Metro 92, c'est le nom précis de cette équipe. Voilà, Bertrand, peut-être un dernier mot sur le rugby. Puisque tu ne t'en vas pas, hein, Fabien, pareil, reste avec nous.
Non, mais on espère que l'aventure va se poursuivre le plus longtemps possible. Petite précision, rugby bien sûr. Je voulais dire aussi que samedi, on avait la chance d'avoir la visite de Florian Grill, le président de la fédération, qui est déjà un peu en campagne pour les futures élections qui auront lieu au mois d'octobre après les Jeux Olympiques. Et puis, bon, bah, comme il aime beaucoup se rendre et visiter tous les petits clubs amateurs et tout, il est... vendredi soir, il sera à Bracieux, dans le Loir-et-Cher, un club également qui a été champion régional ce week-end, qui monte en régional 1, qui va passer la soirée avec eux. Samedi matin, on va l'accueillir et lui faire visiter les installations de la Chambory, où s'entraîne l'US Tour depuis le départ de nos amis irlandais. Et justement, on va être obligé un peu de les priver de la Chambory d'ici quelques temps pour préserver la pelouse pour les équipes qu'on va recevoir dans le cadre des Jeux Olympiques.
Du rugby à 7,
voilà. Donc Florian Grill viendra, il est invité par le CD37 de Francis Diraison. Il va sur la foire faire un petit passage pour l'ouverture de la foire samedi matin. Et il vient ensuite à Tonnelay, où il va rencontrer tous les présidents de clubs du département.
Ah bah c'est super, super ça. Ça montre
donc
aussi
c'est bien de voir que le président de la Fédé...
Les petits clubs surtout. surtout les petits clubs surtout.
Tout à fait.
Voilà, il faut aussi se montrer ça parce que bah voilà, ça passe aussi par là, des jeunes aussi, la formation, tout ça, ça passe par les petits clubs et ça dans n'importe quel sport, évidemment. J'imagine les nouvelles installations de la Chambory, ça fait plaisir quand même de s'entraîner dans un complexe aussi moderne avec des installations dignes des équipes professionnelles comme ça, ça doit être super.
Ah non mais c'est top. Franchement, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut, à part un bain froid, je pense que c'est ce qui manque. Mais franchement, un synthétique, deux terrains, une salle de muscu qui est vraiment énorme, pas mal de vestiaires, non, c'est vraiment top. On a vraiment beaucoup de chance d'avoir ça. Pas beaucoup de clubs ont
non,
ça.
C'est sûr.
Donc non, c'est vraiment top.
Tu parles de bain froid, justement, c'est une de nos préoccupations, un des sujets majeurs pour l'avenue des... On se penche là-dessus et tout, c'est pas facile.
Ah, mais ça veut des bains froids.
Ah, ben c'est la cryothérapie.
Ouais.
Dans c'est rugby, pour la récupération, c'est top.
Ouais, non, mais c'est sûr. Ça se fait de plus en plus, de toute façon. Il y a à Tours, il y a des...
Ouais.
Il y a une
quelques... C'est ouvert, il y a justement un centre, j'ai vu récemment, il y a 2-3 mois...
Ouais. Un centre de cryothérapie où les sportifs justement l'utilisent pour je sais plus combien de degrés c'est mais
c'est
ça,
froid
ça envoie. Moi je suis frileux donc je passe mon tour mais c'est nécessaire. Bon, en tout cas c'est très positif de s'entraîner dans des conditions comme ça. Un mot sur les Jeux Olympiques avec les équipes
Sur les Jeux Olympiques on a la chance d'avoir pratiquement un quart des délégations des équipes internationales. Puisqu'il y a 12 équipes hommes et 12 équipes femmes qui vont être au Stade de France pour le tournoi de rugby à 7 qui va se dérouler avant l'ouverture, la cérémonie d'ouverture.
Ah oui,
il y a deux compétitions, il y a le tir à Châteauroux et il y a le rugby à 7 avant. Donc on a, ils vont séjourner sur Tours entre le 6 et le 22 juillet. On aura trois équipes chez les hommes. On a l'Australie, ça c'est la grosse équipe. Avec notamment l'ancien joueur à 15 Hooper,
Michael Hooper.
Ouais. Oh là, ok.
On a nos amis irlandais qui reviennent. Ils ont tellement été contents et séduits qu'ils viennent tant chez les hommes que chez les femmes. Et la troisième équipe masculine, c'est l'Uruguay. Donc c'est assez divers et varié. Et chez les femmes, on aura également les américaines. Voilà, cinq équipes, pratiquement le quart à Tours. Pour la Touraine et pour Tours et pour nous c'est un superbe coup de projecteur, c'est formidable quoi.
Ouais. Mais c'est aussi une récompense d'un travail de longue haleine. Hein. Je sais que Bertrand, tu travailles beaucoup à ça.
T'es gentil.
Ah bah c'est la vérité.
Je ne veux pas me mettre en avant, mais avec l'équipe, notre association. On est 7, mais je peux vous dire que...
L'occasion de les saluer aussi.
C'est gentil. On travaille d'arrache-pied depuis longtemps, mais bon, on est fiers de pouvoir mettre la Touraine en avant et d'avoir, à l'arrivée, l'Irlande, d'avoir toutes ces équipes-là, c'est vraiment c'est la meilleure des récompenses, quoi.
Oui. Et puis, Tours s'installe comme une terre de rugby. On l'a vu avec les Irlandais qui étaient venus et qui avaient mis un peu d'activité en ville. Très bon public les Irlandais, vraiment. C'était vraiment quand on voyait les maillots irlandais
aussi.
Quand on voyait les maillots irlandais place plume, on savait où on était. Hein.
Là pour le moment on attend parce que on a des réunions prochainement avec la préfecture, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que bon, avec les Jeux Olympiques, on craint sur Paris et un peu partout beaucoup d'attentats, il y a des menaces, espérons.
La sécurité est grandement renforcée pour éviter.
Alors on va voir parce que faudrait pas que ça vienne contrecarrer nos plans. Non,
c'est sûr. Faut que ça reste une belle fête.
On voudrait essayer de pouvoir ouvrir un maximum. Normalement, il devrait y avoir deux entraînements, mais faut une journée homme, une journée femme avec toutes ces délégations. Pour le moment, on ne peut pas encore dire si la tendance sera à Tonnelay, la Chambrerie.
Valet-du-Cher aussi, peut-être.
Non,
pas
ça c'est carrément à écarter.
Okay.
Parce que le 7, bon, au mois de juillet, je ne sais pas. Mais avec les mesures de sécurité, c'est très très compliqué. Ça va nous compliquer la tâche. On va faire le mal.
En parlant de 7, il y aura aussi Howard Hinton 7.
Tour est la capitaine du 7, justement. Alors, il peut y avoir un.
Oui, comment je fais bien les transitions
C'est une belle biscouette, je prends le trou pour une fois. Justement, il y a le 20, à une journée près, j'espère que je ne me trompe pas, c'est 24, 25, 26, ou 20, c'est vendredi, samedi, dimanche.
Et prends pas de risque.
Oui.
Ouais, c'est 24, 25, 26.
Ouais. Voilà, je ne me suis pas trompé, merci. Et alors justement, il y a un gros problème. Au départ, les organisateurs avaient tablé, on devait jouer ce jour-là à l'extérieur. Et si on joue contre Gujan, le Hinton va tomber en concurrence avec l'Estour Gujan.
Ah oui.
Ah oui.
Ah oui, ça c'est vrai que c'est...
Mais dans les deux cas, parce que si c'était le 1er juin, ça tombait également en concurrence avec le tournoi Lamar, le Challenge Lamar, qui est un challenge réservé aux écoles de rugby et tout. Et...
Combienième édition déjà du tournoi ? 44e, je crois. Ou je dis une bêtise peut-être.
Je sais plus.
Plus de 40, je crois. Plus de 40.
Oui, oui, c'est sûr.
Je crois. Mais non, ça aussi, il faut en parler aussi du Challenge Lamar.
Ah bah c'est sûr. C'est... Non, comme quoi, il y a pas mal d'actualités. Alors, je reviens sur le Hinton, notamment avec le retour des Néo-Zélandais. En cette année des Jeux Olympiques et tout, c'est bien. Parce qu'il faut se rappeler que le tournoi Howard Hinton, c'est en souvenir de Howard. Mm. Qui a été le premier grand joueur qui a signé à l'US Tour, néo-zélandais, un joueur énorme. Mmh. Mais d'année en année, Frédéric Mathieu, le président maintenant, a repris le flambeau. Il était très heureux de pouvoir faire venir les néo-zélandais. Il va avoir un beau plateau et je pense qu'on va avoir trois jours de rugby à 7 qui vont être sympas. À la vallée du Cher.
Bon, et ben voilà, 44e édition pour le Challenge Lamar, Guillaume qui m'a confirmé
ça. Mais moi j'allais te dire 43, tu vois.
On n'était pas loin, en tout cas, il n'y avait plus de 40 éditions, ça c'est sûr. Mais ça, c'est bien aussi d'avoir un challenge qui perdure dans le temps, c'est super. Bah, en tout cas, merci pour cette grande page rugby, vous restez avec nous, évidemment, pour parler des deux autres sports qui nous restent, le handball et le basket, juste après ce jingle.
Toute l'actualité sportive Tourangelle est dans le Sport sur son 37 en direct sur Cité Radio.
Sur Cité Radio, donc 89.3 FM, le Sport sur son 37. Il est 19h32 et comme je l'ai dit, il nous reste deux sports à aborder avec tout d'abord du handball, à commencer par le CTHB qui a affronté Plan de Cuc en Ligue Butagaz Énergie. Mmh. 27 partout, les Chambresiens qui n'ont pu faire mieux qu'un match nul. Et c'est pas forcément une très bonne opération quand on voit les résultats devant de Nantes et de Paris 92.
C'est ça.
Puisque au classement, le CTHB est 5e avec 50 points, Nantes est 4e avec 54 points et 3e Paris 92 avec 56 points. L'Europe s'éloigne pour les Chambresiens.
Est-ce que l'Europe s'éloigne ? Ça va dépendre.
Pas tout à fait en fait.
Ça dépend s'il y a
la wildcard. La wildcard
cette année, oui, effectivement.
Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui est sûr, mathématiquement, c'est pas sûr. Mais il reste 6 points à prendre. On est à 5 points de Plan de Cuc, justement, qui est derrière nous, 6e.
Exactement.
Donc on est presque sûr de finir 5e. Donc si on a une wild card.
Il a voulu régler le micro, Florentin, et ben voilà, il a cassé le micro.
Ça marche plus.
Allez,
ça
c'est bon. Il faut plus toucher au micro, Florentin.
Touche plus au micro, Florentin.
Et donc si on a cette fameuse carte, on sera européen.
C'est ça.
Et il y a presque plus rien à jouer parce que Nantes 4e avec 4 points d'avance. Donc et il reste 6 points comme je l'ai dit, donc ça va être compliqué pour le CTHB. Pas grand chose à dire après sur le match, peut-être une contre-performance face à Plan de Cuc, qui est pas forcément une équipe au-dessus.
Mais était juste derrière les Chambresiennes.
Ouais. C'est pas une équipe qui joue le top 5 de cette D1 féminine, mais pour moi c'est une contre-performance. Malgré qu'il y ait la meilleure joueuse de Plan de Cuc qui signe d'ailleurs à Chambray l'année prochaine.
C'est ça, j'ai oublié
son nom. Ouais, j'ai plus son nom aussi, mais c'est une contre-performance 27 partout, même si c'était à l'extérieur là-bas.
Bon, ouais. Le CTHB qui a annoncé la signature de Dinaba Silla en provenance des Neptunes de Nantes pour la saison prochaine.
Très bonne recrue.
Très bonne recrue.
Très bonne recrue pour remplacer Manon Houette. C'est souvent les Chambrésiennes qui vont à Nantes, C'est rare quand c'est les Nantais qui viennent ici. Bah, ça montre que les Chambrésiennes veulent peut-être pas rester cinquième derrière Nantes et Paris et veulent monter pour accrocher ces troisième et quatrième places.
Bon, ouais, c'est ça. Après, ça fait quelques années qu'on est, ça doit faire la deuxième année de suite ou troisième qu'on est cinquième. Donc Chambray s'affirme.
Il y a une continuité.
Troisième. Il y a une vraie, ouais, il y a une vraie continuité. Chambray s'est vraiment affirmé comme un club majeur de bah, Ligue Butagaz et Énergie parce que forcément il y a Metz et il y a Metz et Brest.
C'est ah oui, ah bah ça, oui, c'est
mais
sûr.
Que tu arrives à te battre avec Paris, que tu arrives à te battre avec Nantes, c'est quand même de grosses équipes, c'est des équipes qui ont gagné des Coupes d'Europe, donc c'est pas mal du tout. Alors c'est vraiment cool que Chambray s'affirme comme un des grosses équipes de ce championnat et j'espère que ça va continuer, c'est sûr.
Ouais, et le prochain match du CTHB, pardon, ce sera contre Saint-Amand.
Exact.
Voilà, je ne sais plus la date du match, mais ce sera contre Saint-Amand, ça c'est sûr et certain.
Ouais.
Ce sera Chambray, me semble-t-il, ou
ce sera vendredi, ce sera le 3 mai.
Merci pour cette confirmation.
À 20h.
Ah bah, à 20h, voilà, attention, précision.
Au gymnase.
Gymnase de la Fontaine Blanche.
Bravo Florentin.
À Chambray-les-Tours.
100%. Voilà, 10 sur 10.
Ouais.
Bravo, bravo, bravo. Voilà ce qu'on pouvait dire donc pour le CTHB en National 1 masculine Saint-Cyr.
Avant peut-être vas-y. Pour le CTHB avant de recevoir enfin avant d'aller à Metz, de recevoir Brest et d'aller à Nantes. Donc très très grosse
en effet, c'est pas un
très gros calendrier pour le CTHB.
Bon, c'est
Brest Metz premier deuxième et Nantes
quatrième
ouais derrière c'est Paris qui a pris la
quatrième pour l'instant.
Troisième place.
Ouais. Ouais, qui a pris la troisième place, donc
ouais,
faudra gagner ce match face à Saint-Amand parce qu'on peut s'attendre à des défaites face à Metz et Brest, qui serait plutôt logique.
Mmh.
Et un exploit serait un exploit chambrésien pour gagner ces deux matchs, ou au moins un des deux. Mais après oui, ce sera Nantes à Nantes pour le dernier match de la saison le 25 mai.
C'est ça.
Faudra le gagner pour espérer. En fonction des résultats de Metz aussi, parce qu'on a quand même 4 points de retard.
Bon, bah voilà ce qu'on pouvait dire donc pour le CTHB en National 1 masculine, Saint-Cyr, qui s'est imposé à domicile contre Saint-Marcel-Vernon, 35-25. Belle victoire des Saint-Cyriens qui sont en train de bien finir la saison. Alors, je crois qu'ils s'étaient inclinés lors du dernier match,
oui.
Mais là voilà, à domicile, c'est vrai qu'ils ont fait une belle victoire, là, 35-25. Ils sont toujours
quatrième,
ouais.
Ils sont quatrième ou cinquième, je n'ai plus le classement devant moi, mais oui, belle victoire contre Saint-Marcel-Vernon, une équipe qui n'est jamais simple à jouer. On me rappelle, il y a quelques années, c'était une équipe de Pro B, de Pro D2, donc deuxième division française. Donc beau match, dans la lignée de la victoire face à Saran. Pas grand chose à dire d'autre, à part que vraiment les Turons ont maîtrisé les débats et gagne ce match. Et oui, ça s'annonce du très très bon pour cette fin de saison. On ne montera pas en poule fédérale de manière...
Non, mais le recrutement...
Mais le recrutement laisse penser qu'on va demander
ouais.
De monter
le recrutement est fait pour quand même que l'équipe de Saint-Cyr prenne de l'ampleur. Quand même.
Exactement.
Donc, ça va dire
mais
ça.
C'est toujours fait sur une continuité, c'est ce qui est
ouais,
bien.
C'est ça.
Qu'on ne se précipite pas comme dans les années 2010 où c'était trop précipité. On avait une relégation administrative. Pour ceux qui se souviennent qu'on avait joué Paris justement au Mans. À Antares, mais voilà, le successeur du SCHAB, si je ne me trompe pas, voilà, remet Saint-Cyr sur la carte du handball progressivement et c'est très bien pour le handball masculin.
Alors, handball féminin cette fois-ci, en National 2 féminin, Bléré qui s'est imposé face à Limoges 38-20 et qui sont à un point du leader Saint-Loubès.
Oui.
56 pour Saint-Loubès, 55 pour Bléré.
C'est ça.
Et pourquoi pas une montée en National féminine.
Pas que, on fait partie des meilleurs seconds. Donc
oui,
c'est-à-dire que si les deux prochains matchs sont gagnés, Bléré monte en N1. Alors après, est-ce qu'ils seront avec Chambray parce que tu as peut-être oublié qu'on parle justement du CTHB de la réserve.
C'est vrai.
Donc est-ce que ce sera avec Chambray ou est-ce que ce sera sans Chambray? À voir. Mais pourquoi pas, effectivement. Donc,
il y a deux poules, je crois, en N1, non?
En N1 3 je crois. Je crois 3.
tu vas y arriver. Justement, tu parlais de la réserve du CTHB.
La défaite est dure. La défaite est défaite 32-33 contre la réserve de Saint-Amand. Déjà cette défaite comptablement parlant, elle est très mal parce que de l'autre côté, elle fait qu'elles sont relégables et de l'autre côté Colombelle qui était juste derrière a gagné le match, donc elles sont passées devant. Et pas que, puisque les prochains matchs seront contre des équipes classées 4e et 6e. Il y a Arne et je crois le Rose Hand. Je suis pas sûr, mais c'est Arne, c'est sûr. Donc elle fait très très mal. Et Chambray, alors que si Chambray avait gagné, ils auraient eu leur destin entre les mains. Bah, la défaite fait qu'ils n'ont plus leur destin entre les mains et qu'il va falloir absolument compter sur une défaite et gagner des matchs contre les 4e et 6e.
Ça sera pas facile, c'est
ça. Ça va pas être facile du tout, ouais, effectivement.
Bon, et puis en National 3 masculine, Bléré qui se déplaçait du côté d'Angers. Mmh. Courte défaite 34-31. On peut saluer quand même la vaillance des Blaisois qui s'incline de peu face à Angers qui était quand même assez supérieur sur le papier.
Oui. Oui, oui, Angers était super. La réserve angevine était supérieure sur le papier. Oui, bon match de Bléré. Score logique, dans quelque sorte, entre deux équipes de haut de tableau, mais Angers est meilleur. Donc pas grand chose à dire. Bléré passe 5e et. Pas grand chose à dire d'autre à part que le score est absolument logique pour et donc victoire du SCO, de la réserve du SCO.
Bon, bah voilà ce qu'on pouvait dire pour cette page handball. On va terminer cette émission par du basket. Je vois Kevin qui a serré le poing parce que Kevin, oh, le basket, il est...
c'est mon truc.
C'est ton domaine. C'est ton domaine. commençant donc eh bien par les playoffs de National 1 masculine avec le TMB qui commence bien ses playoffs, oui, avec une victoire sur le parquet de Pont de Cherhuy 82-74. Bah ça commence bien.
Je vais être très concis, très clair. Je vais citer un nom, ça suffira. Tanguy Touzé.
Fin de l'intervention.
Bah 10 sur 13 à 3 points. Il a été incroyable.
Il a fait 30 points.
Bien joué. Ouais. Il a marqué 32 points au total parce qu'il a 32. Mis deux lancers en total. Ah, oui. Mais il était incandescent. Record de points donc de l'histoire de l'UTBM TMB à 3 points, record de shoot me. Ouais, non, mais sans lui, on gagnait pas le match. C'était la performance était incroyable. Incroyable. Il a dégoûté Pont-de-Cherhuy qui est réputé pour être une des salles les plus bruyantes de N1. Il a dégoûté la salle, il a dégoûté l'équipe. Et il gagne un match très important à l'extérieur parce que en général en N1 c'est souvent la différence est faite sur l'avantage du terrain, donc souvent l'équipe derrière, ce qui s'est passé par Le Havre qui a battu Caen, pour Caen qui fait pourtant une très très belle saison, mais Le Havre les a battus, mais c'est souvent l'avantage du terrain qui fait le jeu. Et là le fait que Tours gagne à Pont-de-Cherhuy, ils ont deux matchs pour terminer à domicile, donc ils ont en plus un match là, ce serait bien de finir en deux et d'avoir un match en moins sur les pattes que celui que Caen ou Le Havre à voir. Ce serait une surprise si Caen se ferait éliminer par Le Havre. Mais Le Havre a un très bon vivier. Ils ont Valentin Bigot, notamment, ancien joueur du Mans, et qui fait des merveilles en N1. Donc à voir. Mais Tours a fait un excellent match.
On s'est fait peur quand même.
On s'est fait très peur à la fin du match. Ça revient à 3 points.
Il y a un contre, de Théo Léon, à 3 points à 1 minute 30. On doit être à 82-74 à ce moment-là.
Je crois que... Ouais, c'est ça, vas-y.
82-74, il partait bien en plus ce shoot à 3 points. Il y a eu aussi une perte de balle à 50 secondes de la fin de Théo Léon. Mm-hmm. Donc,
je vois Bertrand qui rigole. Rigole jaune peut-être. Ouais.
C'est peut-être pas la première fois. Ça, c'est...
Exactement. Non, mais l'habitude de Tours, ils sont retombés un peu dans leur travers. Hein, mm. Et t'as bien fait de le saluer parce que... Tanguy Touzé a fait un match remarquable. J'écoutais le peu de son qu'il y avait en suivant ce match. J'entendais les spectateurs qui disaient « Mais où est-ce qu'ils ont été le chercher, celui-là » Il n'y a pas encore lui, et bing, et l'autre, il a artillé, il reculait 3 mètres, 6 mètres, 8 mètres, il a mis un. Mais comme il disait fort justement après, il dit « Mais un shooter, quand on a l'adresse, et ça me rappelait un peu du Buisson, il dit « Bah le panier, on le voit... » grandir l'arceau et tout, et on a juste à tirer, on sait que ça va tomber dedans. Mais c'est énorme. Mais j'espère qu'il aura la même réussite sur les matchs à venir, parce que s'il garde la même adresse, Tours peut être dangereux, parce que le match retour a lieu vendredi soir.
J'espère
pour eux qu'ils vont boucler le truc tranquille, parce que sinon le match la belle aurait lieu dimanche après-midi à 15h30, ça m'embêterait, je pourrais pas y aller parce que comme je suis au rugby, je leur fais confiance, ils vont fermer la boutique vendredi soir. Et je pense que Tours, Cédric Hetz, à force de chercher, il a peut-être fini par trouver la solution pour pouvoir gagner un match à l'extérieur, enfin être plus régulier, plus constant, parce qu'ils en ont gagné quand même. Mais dans les playoffs, ça va être très très dur. Mais là, en plus, il semblerait que Pierre-Étienne Drouot devrait pouvoir rentrer pour les quarts de finale.
Ça, c'est
bien. Ça serait peut-être les derniers matchs sans lui. Bon, après, il n'y a qu'un seul ballon sur le terrain. Alors, avec les tireurs d'élite qu'on a, je voudrais pas être à la place de Cédric Hedges parce que va falloir trouver le bon joueur au bon moment.
C'est, c'est la grande force et la grande faiblesse du TMB, parce qu'il n'y a qu'un ballon pour partager avec des joueurs qui sont de classe parfois Pro B, en particulier Fabien Pachal. Donc, et Pierre-Étienne Roux qui fait des saisons en Pro B aussi avec Rouen. Donc oui, c'est la grande. Cette profondeur peut être une qualité en même temps, aussi un défaut, et des fois on s'en est rendu compte un petit peu cette saison. Donc ouais.
Et donc le prochain match, donc le match
vendredi.
Il faut préciser que Pont-de-Charruy n'a plus rien à jouer. Puisqu'ils repartiront en N3, si je me trompe pas, pour des, oui, pour des problèmes.
Ah, ils ont demandé à être rétrogradés administrativement.
Ouais. Et c'est ça.
En N3, ouais.
C'est un peu bizarre, ils annoncent ça et tout, et la fédération qualifie une équipe pour jouer les playoffs. Un peu curieux, parce que s'ils coupent la tête à quelqu'un qui veut monter,
c'est... Évité sportive,
bon, les joueurs, ils sont pour rien, hein, sur le terrain,
oui,
ils se battent.
Oui, c'est sûr. Ça. Mais c'est un peu... Ouais, peut-être que le délai était un peu court, enfin je...
Non,
bizarre,
mais ils
bizarre,
ont
ouais.
des problèmes, je pense,
économiques
financiers et tout, donc ils ont pris la bonne décision de vouloir...
C'est un petit club, je crois que c'était comme... Il y a deux ans, c'était Feur aussi qui était dans cette situation, ouais. qui s'est demandé. Qui... Oui, la N1, c'est un bouffe-sous, c'est... Soit tu fais partie des meilleures équipes, et dans ce cas-là, tu te battras toujours pour gagner pour monter, soit tu fais partie des petites équipes, dans ce cas-là, tu vas trimer. Et puis des fois il y a des surprises comme Lorient cette année qui est en grande difficulté, qui
et va descendre. Un des plus gros budgets.
Et qui est pourtant un des gros budgets. Besançon aussi qui avait une volonté probée et qui a fini la saison catastrophique. Donc la N1 c'est pas une science sûre, mais c'est un bouffe-sous, ça c'est sûr.
Nous on a une équipe et on a des joueurs et on a un petit palais des sports. On peut même pas dire palais des sports.
Ouais.
Gymnase.
C'est ça.
Petit gymnase avec des places, mais le gymnase va être bien rempli, je pense, vendredi soir.
Oui. Apparemment, là, normalement, ça va être plein, on va encore refuser du monde.
Ouais, donc ce sera à 20h, donc il y a encore des places debout, je crois. Peut-être plus grand-chose, mais oui. Il reste quelques places debout, donc n'hésitez pas, si vous voulez assister à ce match, n'hésitez pas, ça se passe sur les réseaux sociaux du TMB pour prendre vos places. Donc voilà, la billetterie, ce sera donc le 3 mai, à 20h, à mon conseil, donc pour ce deuxième match, et puis une victoire, et puis
le vainqueur joue en quart de finale, il jouera le vainqueur de Caen-Le Havre, et comme je vous disais, Le Havre a battu Caen. Donc
Le Havre a mené pratiquement toute la partie de 20 points.
C'est ça.
Quand a l'air de coincé, ils ont l'avantage de recevoir.
Attention au terrain. Ouais.
Mais je me méfierais du Havre.
Oui, c'est une grosse équipe.
J'ai une petite pièce à jouer. Quand c'est peut-être vu un peu trop beau depuis un petit moment.
Puis Le Havre, c'est une grosse équipe depuis des années. C'est une équipe qui prétend à la Pro B, mais qui a des difficultés à tout mettre ensemble, à l'intérieur, à l'extérieur. Bref, c'est très compliqué.
Si c'était Le Havre, ça serait peut-être une bonne chose pour le tour. Parce que, outre le fait de recroiser Caen qui nous a pas trop réussi, je pense que là, on aurait, si je me trompe pas, hein, mais j'ai pas eu le temps de le vérifier, on récupérerait l'avantage.
Oui, c'est ça. C'est ça, exactement.
Le Havre va terminer plus loin que Tours.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. On jouerait les derniers matchs.
Bon, tout bénef. Est-ce que Emilien, tu as eu l'occasion de suivre un peu le TMB? Est-ce que tu regardes ça un petit peu du Pondé?
Non, le TMB, je regarde pas trop.
Alors, il faudrait.
Je vais te prendre.
Kevin va te convertir.
Oh oui. Oh oui,
voilà. Bon, il n'y a pas beaucoup de place par contre dans le gymnase, donc faut vite, quand tu veux prendre tes places, faut se dépêcher un peu. Sinon, il y a YouTube, voilà, qui sert bien.
Il y a plus de place à Tonnelay dimanche.
Pour organiser un match de basket à Tonnelay, ça va être compliqué. Mais pourquoi pas. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc,
après, on peut faire le TMB vendredi et Tonnelay dimanche.
Oui, c'est vrai.
Absolument, bien sûr.
Totalement, évidemment.
Un bon plan.
Totalement, oui, totalement. En National 3 masculine, il y a eu des résultats. Alors, on va commencer d'abord par Fondette, avant de parler du TBC, du P3L. Fondette qui se déplaçait sur le parquet de Brissac, défaite 73 à 69. Messieurs, qu'avez-vous à dire sur ce match?
Brissac avait validé sa montée. Donc, il fêtait la remontée au complexe du Marin contre Fondette. Le match a été serré tout du long, mais finalement, dernier coup de collier par Brissac qui l'emporte de 4 points. Bon dernier match de la part de Fondette. Bon dernier match, même si on peut se demander si Brissac a joué à fond. Pour moi, oui, parce que c'est quand même une fête devant son public. Mais bon dernier match de Fondette qui aura fait une très bonne saison. Et
5e place à l'arrivée.
Oui, 5e place, toujours dans les standards. Et peut-être que dans les années, ça se maintient en N3. Et peut-être dans les années futures, ça peut se battre pour la N2, parce que ça fait quand même quelques années que ça tourne autour du but, C'est très très proche. Mais
comme oui, je te coupe, excuse-moi, comme oui, tu disais, Brissac préparait la fête.
Oui.
Et je regardais, ils avaient un peu la tête ailleurs parce qu'ils menaient 64-43 à la 28e minute.
Ah oui.
Voilà.
Oui, oui.
Ils avaient déjà
63.
64 à 43, donc 21 points d'avance.
43, ouais, et Fondette a terminé sur un 16-0. Donc,
ouais,
bravo à Fondette quand même, parce que c'est une belle équipe, ouais, depuis le début de la saison. Ils ont fait vraiment de...
Il y a deux, trois choses qui ne sont pas allées ensemble à certains moments.
Ils ont
mais...
eu beaucoup de blessés, ouais, ça, et tout. Mais c'est une bonne équipe de National 3 et
ouais,
une bonne équipe d'Indre-et-Loire.
Et avec un très bon public. Peut-être le, pour moi le meilleur public d'Indre-et-Loire en N3. Vraiment très beau public, ouais, Fondette.
L'équipe d'Alexandre Barotto, le président, et ils ont un COP merveilleux,
oui,
qui vient même, je me rappelle justement les avoir vus plusieurs fois cette saison, là, et même lors du derby Walbardier,
oui,
où ils avaient vraiment
mille ambiances,
cette petite équipe,
ah, oui, oui, oui,
c'est formidable.
C'est génial.
Alors justement, on va parler de, du Walbardier avec ce, ce match qui était tant redouté, le scénario était tant redouté, on disait ce scénario peut arriver, c'est pas souhaité, ouais, mais il pouvait arriver, ce scénario, il est arrivé. Malheureusement, alors heureusement pour le TBC donc qui s'impose face au TMBP 3L 86-65. Évidemment, c'est une très bonne nouvelle que du côté du TBC qui, eh bien, grâce à cette victoire, monte, oui, en National 2 pour la saison prochaine. Par contre, du côté du P3L, bah, cette défaite les condamne à la relégation en Régional 1. Bah voilà, un côté ça sourit, et puis l'autre côté ça, ça pleure.
Tu parlais d'ambiance, justement, on peut saluer parce que le match avait lieu à 15h30. Et de souvenir, j'ai rarement vu, je crois même jamais vu, autant de monde au Walbardier. Il y avait des spectateurs, il y avait des bancs, des chaises de rajouter et tout, et alors une ambiance, ils ont porté leur équipe. Alors les données étaient claires au départ, le TBC savait qu'il était contraint de s'imposer parce qu'il y avait une lutte à trois. Il y a quatre meilleurs troisièmes qui devaient monter.
Trois.
Quatre.
4 sur
excuse-moi, oui, sur, ouais, un certain. Okay. Parce qu'il y a une équipe, et justement c'est là où je vais en parler, c'est Rognonas, je crois, l'équipe,
oui,
du Rhône, je sais plus, qui était en poule B, qui a quand même concédé ce week-end sa 8e défaite, alors que le TBC et les deux équipes, Arbre et Courbevoie, qui étaient à la lutte, étaient à 4 défaites seulement. Mais les règlements de la fédération font que ils ont récompensé cette équipe de Rognonas, là, qui a fait un gros parcours en Coupe de France. Alors même si on leur rajoute un point, ils n'ont jamais le même total. J'avoue franchement que là, il faudra m'expliquer. Donc le TBC qui avait fait un super parcours aller, pareil, avec une seule défaite justement contre Brissac ou Walbardier, s'est pris les trois fois les pieds dans le tapis, et notamment deux fois dans les dernières semaines à la Séguinière et contre...
Contre Luçon. D'un point.
Moi, c'est ça, d'un point. Et donc là, il fallait qu'ils gagnent. Mais il fallait espérer qu'il y en ait des deux autres, parce que là, tu as raison, il n'y en,
ouais,
a que plus que trois qui, avec cette histoire, il n'y en a plus que trois qui montaient, et il fallait que ou Courbevoie, qui recevait Juvisy, ou Arbre, qui allait à Montivilliers. Montivilliers, c'est en Normandie, c'est le club d'où est originaire Vincent Collet.
D'accord, ah oui.
Voilà, donc, ouais, c'est un fief basket. Ils ont embêté Arbre pendant toute la partie, mais ils ont quand même perdu assez largement.
Vincent Collet, pour ceux qui ne savent pas, entraîneur de l'équipe de France
voilà,
masculine. Voilà.
Et alors, j'en reviens au match donc, du TBC. Ils ont mené de bout en bout. Ils ont pris le match d'entrée à leur compte. Ils menaient au bout de 10 minutes 30 à 12 de mémoire, je crois. Ils ont eu ils ont essuyé un petit coup de bambou à un moment, les autres sont revenus à un point, mais jamais le TMB P3L qui, pour ce match, avait quand même fait descendre Ousmane Kaba, qui joue avec la N1.
Oui.
Et Gaëtan Doué également, l'entraîneur adjoint de Cédric Hetz, qui a joué. Donc ils ont essayé, parce qu'eux aussi, il fallait qu'ils essayent de gagner pour éviter de descendre. Mais ils ont été très vite débordés par le TBC, portés par son public et tout, qui voulait franchir la ligne d'arrivée et tout. Bon, alors, je vais faire court. Le TBC, en deuxième mi-temps, a refait l'écart. Il gagne de 21 points à l'arrivée. Bon, ils étaient contents. Pierre Dacosta, dont c'était a priori le dernier match.
Oui.
Je dis bien a priori.
A priori.
Est sorti sous l'ovation du public et tout à 1 minute 30 de la fin. coup de sifflet final. Bon, et tout le monde était pendu au résultat des deux autres. Bon, je l'ai vécu de l'intérieur parce que j'étais un peu... J'étais en ligne dans les deux salles et tout. Et j'ai tout de suite compris que Arbre avait gagné à Montivier, donc eux, ils y montaient. Et curieusement, j'étais en ligne avec le président de Courbevoie, qui répondait pas. Je me suis dit, ou bien il est déjà en train
de fêter
la montée, ou alors il est à tête dans le sac. Et en fait, à un moment, il m'envoie un texto, il me dit, on perd. Et il y a eu 65-63, et là, je vous dis pas le banc de,
voilà.
De Tours.
Alors qui a appris la nouvelle? C'est ça la question.
Comment il s'appelle l'intérieur. Joris Akongo, je crois son nom, je vais l'écorcher, qui a eu vu sur les réseaux sociaux et tout, et il a vu, il l'a montré à ses partenaires et
après,
tout.
Après
l'explosion de joie, voilà.
C'était la joie totale.
Et le public était encore présent?
Ah oui, tout le monde était resté pour attendre justement la sanction, parce que tant qu'on ne connaissait pas le résultat des deux équipes, tout le monde disait, bah alors est-ce que on a gagné, c'est bien, la saison est terminée, c'est merveilleux, bon, mais si on ne monte pas, et puis il y en a d'autres qui commencent à dire, bon, on va faire une troisième mi-temps et tout. Et là, bon, bah, la bonne nouvelle est arrivée. Ça a été la libération pour tout le monde, le soulagement et un immense bonheur.
Alors, bonne nouvelle pour le TBC.
La présidente Sandrine Sérol qui devait être avec nous, mais elle est retenue par ailleurs. Donc,
on lui en veut pas, évidemment. Mais
on lui en veut pas. D'ailleurs, elle a promis qu'elle viendrait une prochaine
fois. Il n'y a pas de souci. En plus, on avait reçu Stéphane Bergeron,
Boris Baudenay et Olivier Bert.
Olivier Bertrand.
Voilà. Et non pas Laurent. N'est-ce pas, Florentin?
Non, tu te confonds. C'est Bertrand Foy qui m'avait envoyé le.
J'ai confondu.
Le message et qui.
Ah oui, c'est Bertrand. Oui.
On m'avait envoyé. On va recevoir Olivier Laurent. Moi, je me suis basé sur ça et j'ai dit Olivier Laurent. C'était Olivier Bertrand. Voilà.
T'as oublié.
Ouais, alors comme tu le disais, pour justement,
bonne nouvelle du côté du TBC, mais
le bonheur des uns fait le malheur des autres, parce que le TMB P3L. Redescend au niveau
régional.
Pré-national. Donc ça va poser des problèmes.
Alors, quelles sont les conséquences? Pour le TMB.
Déjà, c'est compliqué parce que. Alors, déjà, pour le TBC. Le TBC va rentrer dans une zone de turbulence, mais bon, pour une équipe qui monte et tout, mais bon, va falloir trouver un budget. Va falloir solutionner le problème de la salle. Parce que le gymnase du Halbardier, il y a des gros travaux qui commencent au mois de septembre.
Oui. Mm-hmm. Et qui vont être finis, mais dans...
Ça va durer un an.
Ça va durer un an.
Bon, ça va être compliqué. Et puis c'est le niveau de la N2, donc il va falloir monter une équipe. Et là, maintenant, se pose la question de savoir... et là, la mairie, justement, va être obligée de... Ça va poser des problèmes et tout, entre le TMB, le TBC, parce que ce sont deux clubs qui, à un moment, étaient sous la même bannière de l'UTBM. Bon, pour des raisons de différents relationnels et tout, entre certaines personnes, il y a eu un divorce. Et c'est regrettable, parce que là, entre le TMB, qui est aux portes de la Pro B, je leur souhaite de tout cœur de monter... Et le TBC, qui a grillé tout le monde, qui est monté. Bon, mais là, maintenant, là, se posent des problèmes à tous les niveaux, des problèmes financiers, des problèmes de salle, des problèmes de... Parce que c'est pareil, la descente du P3L, faut savoir dans la petite histoire que c'est le P3L qui détient les droits sportifs.
Ouais.
Alors après, je ne sais pas trop comment ça va se passer. S'ils sont au niveau national, en N1, s'ils restent, ça peut peut-être aller, mais en Pro B, ça va être plus compliqué. Si le TMB venait à monter en Pro B, il va leur falloir une équipe espoir derrière. Et quid? Il n'y a pas d'équipe espoir. Il n'y a rien.
Il n'y a rien.
La seule année où ça avait été fait, et au dernier moment, c'est-à-dire... Parce que là, le TMB est lancé une aventure jusqu'au 15 juin.
Ouais.
Et au 15 juin, si jamais vous montez, il va falloir bâtir une équipe, en plus du recruter pour trouver une équipe pour jouer au niveau supérieur, il va falloir trouver une équipe espoir. Et au 15 juin, c'est pas facile. La dernière expérience, ils prenaient des tôles sur tôles quand ils...
Bon, en tout cas, on va suivre tout ça.
Donc tout ça, c'est...
Voilà, donc tu l'as dit, malheur des uns fait le bonheur des autres,
etc. Je peux vous dire, la joie du TBC, j'ai appris la soirée s'est terminée très tard.
C'est pour ça que sans doute Sandrine Cyrol
bah oui, oui.
est retenue.
Félicitations voilà. à tout le monde.
Ah, mais félicitations à tous les ouais. coachs,
TBC, alors, la saison ne se termine pas parce que le TBC, justement, c'est pour ça que j'ai oui. dit pour Pierre Dacosta qui pensait avoir disputé son dernier match. Ben, il va être obligé de remettre les baskets le prochain week-end, parce que comme au rugby, c'est pareil, en basket, il y a les phases finales, et là, ils sont qualifiés pour un premier plateau où ils vont jouer à Cognac. Si je ne me suis pas trompé, ils doivent jouer samedi soir contre Ozoir, la Ferrière, mm-hmm. et l'autre demi-finale opposera l'Hermine de Nantes à